Pierre de Ronsard, une révolution poétique. À l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Pierre de Ronsard, France Mémoire, la mission des commémorations nationales, vous propose une série en 6 épisodes pour entrer dans l'œuvre de ce poète étonnant de la Renaissance. Cette série, fruit d'une collaboration avec Luce Albert, maîtresse de conférences en littérature du XVIe siècle, est illustrée de poèmes interprétés par des étudiants de l'Université d'Angers. Vous écoutez l'épisode 4, Ronsard, poète d'amour.
Celui qui gît sous cette tombe ici est ma première, une belle Cassandre. Est ma seconde, une Marie aussi, tant ton amour il fut facile à prendre. De la première, il eut le cœur transi. De la seconde, il eut le cœur en cendre. Et si, des deux, il n'eût on que merci.
Vous venez d'entendre un poème en forme d'épitaphe assez plaisante, composé par Ronsard pour lui-même, dans le second livre des Amours. Dans cette épitaphe, vous avez entendu que Ronsard nomme deux femmes aimées, Cassandre et Marie. Et vous savez que, pour rendre compte de l'ensemble de la carrière amoureuse de Ronsard, eh bien, il faut aussi mentionner Hélène et certainement quelques autres, un peu moins connues, plus ou moins anonymes. Ces femmes sont les inspiratrices d'une œuvre poétique exceptionnellement variée, abondante, dont l'amour, vous le savez, constitue la colonne vertébrale.
Donc on a Cassandre, Marie, Hélène, ça fait quand même beaucoup de maîtresses pour un clerc de l'église qui était en plus aumônier du roi.
Oui, n'est-ce pas, hein ? Peut-on imaginer aujourd'hui un membre du clergé évoquant les rigueurs amoureuses d'une Cassandre, le beau sein de Marie, ou encore son désir brûlant pour la belle Hélène ? Non, non, c'est inconcevable. Et d'ailleurs, les auteurs protestants à l'époque, Jean Calvin, Théodore de Bèze, critiqueront beaucoup l'impudeur des poèmes des poètes de la Pléiade. Mais pour lire Ronsard, il faut se débarrasser des réflexes que nous avons appris par le XIXe siècle, et notamment celui qui consiste à rattacher systématiquement les textes à la vie de leur auteur. D'ailleurs, les lecteurs de l'époque admettent d'emblée le caractère plus ou moins fictif de cette poésie, qui dit « je », et l'Église tolère parfaitement qu'un clerc publie des discours amoureux. Ronsard, d'ailleurs, n'est pas le premier, hein, Mélin de Saint-Gelais, dont on a déjà parlé, qui était l'aumônier du roi avant Ronsard, eh bien, du roi Henri II, hein, eh bien, il était l'un des premiers poètes français à composer des poésies d'amour imitées du poète italien Pétrarque.
Donc attendez, tout ce que Ronsard écrit sur sa vie amoureuse relève en fait de la plus pure fiction ?
Alors, chez Aristote, vous savez peut-être que la littérature est supérieure à la philosophie. Pourquoi ? Parce que la littérature traite du possible et non pas du réel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que son champ d'exploration est beaucoup plus vaste. Dans la poésie amoureuse de la Renaissance, qui est imprégnée de cette culture antique, on l'a dit beaucoup, hein, le je de l'auteur, est un masque. C'est un masque qui permet au poète d'explorer toute la gamme possible des sentiments. Ainsi, le « je » des amours de Ronsard ne doit pas être confondu avec le personnage historique, qu'est Pierre de Ronsard. Le portrait qui est gravé, qui orne le frontispice de la première édition, en face à face du portrait de Cassandre, représente par exemple le poète vêtu à l'antique, avec une couronne de laurier, sans sa tonsure. Hein. Eh bien, c'est Ronsard, mais Ronsard, revêtu en quelque sorte de ce qu'on pourrait appeler son costume de poète d'amour.
Mais est-ce qu'il ne s'est tout de même pas un petit peu inspiré de sa vie réelle, Ronsard, pour écrire sa poésie, sans que ce soit bien sûr 100% autobiographique, il y a quand même du vrai derrière ?
Sans doute, mais de quel ordre est ce lien ? On relie la figure de Cassandre, qui apparaît au premier livre d'Hésode en 1550, on la relie souvent à Cassandre Salviati, qui est la fille d'un banquier florentin. Ronsard l'aurait rencontrée dans un bal, tout ceci nous vient du poète Agrippa d'Aubigné, qui a vécu une génération et demie après Ronsard. Aucun document n'atteste de l'historicité de ces faits. En outre, cette Cassandre, eh bien, dans le recueil d'Hésode, Elle se métamorphose au fil du recueil et dans le livre des amours aussi, dans le premier livre. Tantôt elle est brune, tantôt elle est blonde, tantôt elle est légère, tantôt elle est sévère. Finalement, on a une silhouette qui demeure comme un objet finalement autour duquel se cristallise un petit peu l'imaginaire du poète et qui va la colorer un petit peu à sa guise.
Donc là, on vient de parler de Cassandre, mais il y a Marie aussi. Est-ce qu'elle a une petite part de réalité ?
Oui, de la même manière, Marie serait la fille d'un aubergiste de Bourgueil, qui est une ville qui se situe entre Tours et Angers. Elle inspire en 1555-1556 la continuation des amours, puis la nouvelle continuation des amours, regroupée 4 ans plus tard sous le titre du second livre des amours ou encore Amour de Marie. Plusieurs associations de ce prénom de Marie à un pain P-I-N, laissent supposer l'existence peut-être d'une Marie Dupin, des U plus loin pain, ou d'une Marie Dupin, des U P-I-N, ce serait son nom de famille, peut-être qu'elle a existé. Mais on trouve dans ce recueil d'autres figures féminines qui brouillent du coup toute identification possible. En 1559, Ronsard inclut au second livre des amours le cycle de Sinope. Étymologiquement, c'est celle qui blesse le regard. Bon, ce pseudonyme dissimule peut-être une dame de la cour. Et puis on a également le cycle de Genèvre qui désigne encore une nouvelle inconnue. En 1578, Ronsard ajoute une seconde partie que l'on appelle « Sur la mort de Marie ». Eh bien, cette fois, les sonnets de Ronsard sur la mort de Marie ne font plus référence à cette petite paysanne angevine, ni même à Sinope ou à Genèvre. Il s'agit de Marie de Clèves, qui était la maîtresse adorée d'Henri III, morte en couche à 21 ans, et Henri III avait commandé à Ronsard ses poèmes sur la mort de Marie. Donc, vous voyez, on a là, finalement, 4 figures féminines distinctes qui se rattachent toutes aux amours de Marie, et auxquels on pourrait encore ajouter des poèmes adressés à Calirée, à Astrée, qui sont des prénoms, derrière lesquels se cache peut-être Anne d'Aquaviva, qui était une demoiselle de Catherine de Médicis, aimée de Charles IX, Françoise Babou de La Bourdaisière, qui était la femme d'Antoine d'Estrée, qui aurait peut-être été aimée de Ronsard lui-même, ou bien d'un de ses amis, enfin voilà. Hein.
C'est assez beau, il n'y a pas qu'une seule source d'inspiration, mais en fait plusieurs femmes derrière tous ces poèmes d'amour, et cette diversité des amours permet aussi de varier les styles.
Oui, en effet, et d'ailleurs Ronsard assume pleinement cette multiplicité, d'autant mieux qu'elle met en valeur cette capacité à traiter l'amour dans des styles et des tonalités variées. Au départ, les sonnets pour Marie sont associés à ce qu'on appellerait un style mignard, précieux, délicat, qui tranche avec le style sublime avec lequel Ronsard a chanté ses amours pour Cassandre. En y ajoutant plusieurs autres cycles qui sont sans rapport avec le contexte campagnard des premiers poèmes de Marie, puis les sonnets sur la mort de Marie, eh bien Ronsard va briser cette unité relative du recueil. L'exemple du sonnet 4, par exemple, du cycle sur la mort de Marie, est une des plus belles réussites de Ronsard. Ce poème, c'est un poème de commande du futur roi Henri III au moment du deuil de sa maîtresse, dont on a parlé à l'instant. Ce poème est tissé de souvenirs littéraires, dans la plus pure tradition humaniste, et pourtant, Ronsard parvient à insuffler vraiment, vous allez l'entendre, une douloureuse sincérité dans ce poème. Donc, il est impossible de savoir s'il pensait à sa Marie angevine, qui peut-être était morte elle aussi. En tout cas, il efface toute référence explicite pour finalement ne conserver que les thèmes universels du temps qui passe, de la perte de l'être aimé et de l'injustice du destin. Je vous propose d'écouter ce texte qui va vous être déclamé en prononciation historique et qui déplore la mort de Marie dans ce sonnet bien connu.
Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs au point du jour la rose, la grâce dans sa feuille et l'amour se repose, embaumant les jardins et les arbres odeux. Mais battue ou de pluie ou d'excessive ardeur, languissante, elle meurt, feuille à feuille déclose. Ainsi, en ta première et jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, la part que t'as tuée et cendre tu reposes. Pour obsèques reçois mes larmes et mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que vif et mort, ton corps ne soit que rose.
Ce poème sur la mort de Marie développe, vous l'avez entendu, dans les deux premiers quatrains, un harmonieux tableau de la rose épanouie, à l'aube d'un beau matin de printemps, dans cette double référence temporelle du matin et du printemps, qui bien sûr symbolise de manière topique la jeunesse. Cette comparaison de la femme à la rose, qui nous vient du poète latin Ozone, structure le poème, était un classique chez Ronsard. Hein. Mais très vite, trop vite, la rose se fane, feuille à feuille déclose. Hein. Et la troisième strophe amène le second terme de la comparaison, c'est-à-dire le motif de la belle matineuse qui suscite la jalousie du ciel, c'est-à-dire d'un dieu ou d'une déesse, et sert implicitement à expliquer le décès brutal. Ainsi, en ta première et jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, la part que t'as tuée et cendre tu reposes. Et enfin, dans la dernière strophe, le poète accomplit des rites funéraires à l'antique, avec les offrandes du lait, des fleurs qui sont symboles de vie, mais qui sont aussi symboles de mort, en raison de leur caractère périssable. Et puis la pointe du sonnet, c'est-à-dire, c'est ainsi qu'on appelle le dernier vers, hein, « Afin que vif et mort, ton corps ne soit que rose », eh bien cette pointe coïncide avec l'attaque, en ramenant cette image de la rose, comme pour clore le poème sur lui-même. Et c'est ce poème qui devient l'offrande ultime que le poète fait à la dame pour assurer son immortalité. Ici, le poème est, et on l'a dit depuis le premier épisode de ce podcast, hein, le poème est un défi à la mort. Son objectif, c'est vraiment arrêter le temps et immortaliser son objet.
Et qu'en est-il pour les poèmes à Hélène ? Ce sont les mêmes thèmes qui surgissent ?
Alors, Hélène est effectivement la troisième grande figure féminine qui domine la poésie d'amour de Ronsard. Et elle est l'inspiratrice du troisième canzonnière qu'a écrit Ronsard 20 ans après ses premières amours. Ronsard, là, est âgé de 54 ans. Ce n'est plus du tout le fringant jeune homme du collège de Coqueret, chef de bande. Et de plus, il a un jeune rival à la cour, qui est le poète Philippe Desportes. Catherine de Médicis aurait demandé à Ronsard de consacrer un canzonnière à sa fille d'honneur, Hélène de Surgères, pour prouver qu'il est toujours le meilleur dans cette veine néo-pétrarchiste qui est très très à la mode. Cela donnera les sonnets pour Hélène, et on peut dire qu'avec Les Amours de Cassandre, qui est un titre qui a été donné a posteriori, hein, au premier livre des Amours, un titre qui a été donné par les lecteurs éditeurs de Ronsard, donc Les Amours de Cassandre, puis Les Amours de Marie, eh bien, si l'on ajoute les sonnets pour Hélène, on a là une sorte de, ce qu'on pourrait appeler une sorte de trilogie amoureuse. Mais tout de même, pour être complet, pour évoquer la poésie amoureuse de Ronsard, il faut aussi mentionner un petit recueil de poésie érotique, qui a été publié anonymement en 1553 par Ronsard, qui s'appelle Les Folâtries. Du reste, il faut dire que Ronsard n'intégrera jamais à ses œuvres complètes, hein, ni aux Amours, ce petit recueil. Et il faut ajouter également Les Amours diverses, composées dans la suite, dans le prolongement des sonnets pour Hélène.
Donc vous avez dit tout à l'heure que Cassandre était associée à un style assez élevé, Marie plutôt à un style mignard. Qu'est-ce qu'on peut dire des sonnets pour Hélène ? Qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau ?
Alors contrairement à son ami Joachim du Bellay qui a fini par y renoncer, Ronsard reste fidèle au pétrarchisme. Il accepte de refaire l'amoureux, hein, pour répondre à cette demande de la reine, mais certainement son ton évolue. Par exemple... Il va multiplier à plaisir les allusions ambiguës à Hélène de Sparte. Hélène de Sparte, c'est une femme dont la beauté est mythique, mais tout de même, elle est plus ou moins responsable de la ruine de Troie. Elle n'est pas perçue comme une héroïne très très positive à l'époque. Donc le ton du recueil est aussi plus sombre, plus distancié. Le poète se plaint sans complaisance de son chef si grisant, hein, c'est-à-dire de ses cheveux qui commencent à blanchir, donc de sa vieillesse qui arrive. Et à cet égard, il use de contrastes assez burlesques. Voilà, il ne dédaigne pas non plus la satire, qu'il s'agisse de l'idéalisation de la femme, des conventions littéraires, des philosophies à la mode, et aussi des masques de cour. Donc vous voyez que l'attendrissement se mêle un petit peu de cruauté pour évoquer la vieillesse d'Hélène. On connaît tous ces vers fameux « Quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, Dirai, chantant mes vers, en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Et dans ce poème, Ronsard vraiment cherche à fléchir le dédain de cette femme aimée, en lui mettant sous les yeux le tableau quand même assez cruel de sa vieillesse, et en faisant valoir, là encore, l'immortalité que confère la poésie. Voilà. Et le poète se présente lui-même, hein, comme déjà mort, fantôme sans os, enseveli sous la terre, pour conclure finalement sur cette injonction du carpe diem, il faut profiter avant d'être un fantôme sans os, avant d'être enseveli. Hein. Je le cite, « Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. » C'est donc finalement un poème d'amour qui parle de mort.
Et alors, cette angoisse de la mort qu'on perçoit dans tous ces poèmes de Ronsard, est-ce qu'elle est due à son âge quand il compose, alors que pourtant il a que 54 ans, c'est pas si âgé que ça?
Ah, quand même, l'âge y est pour quelque chose, oui, mais pas seulement, vous savez, parce que, depuis à peu près une vingtaine d'années, quand il compose ce recueil, les guerres de religion déchirent la société civile. Cela va développer une sorte de tendance un peu asociale de cette société qui va s'étourdir dans des fêtes, des mascarades, etc. Donc c'est une génération qui doit aussi faire le deuil, qui est assez déchirant, hein, du grand idéal de la Renaissance. Avec les premiers humanistes, on avait l'espoir que l'homme de la Renaissance dépasserait toutes les espérances. Hein. Pourquoi ? Parce que faire renaître cette culture antique, quel était l'intérêt ? Eh bien, c'était faire revenir une époque où l'homme, qui est donc l'Antiquité, où l'homme avait atteint la pleine mesure de lui-même dans de nombreuses disciplines, en philosophie, en lettres, en astronomie, en botanique. Les hommes étaient des hommes complets, à l'image d'Aristote, par exemple. Hein. Et donc, l'idée, c'était de faire renaître cette culture, parfaite presque, à une époque où on lui ajoutait la chrétienté, la révélation chrétienne, et les grandes découvertes, et ces trois choses mises ensemble allaient amener l'homme à devenir un géant. Évidemment, là, vous reconnaissez Rabelais, hein, la manière dont Rabelais a figuré ce grand idéal de la Renaissance. Mais rien de tout cela n'arrive. Que se passe-t-il? Au contraire, le pays sombre dans des guerres fratricides, sanglantes, absolument atroces. Donc chez Ronsard, mais aussi dans le reste de la société, cela suscite révolte, cela suscite mélancolie et un sentiment vraiment définitif d'étrangeté. Hein, d'une sorte étrangeté au XVIe siècle signifie être étranger à soi-même, à sa propre culture, à son propre pays que l'on ne reconnaît plus. Et cette injonction morbide un peu, cette projection un peu morbide dans la tombe, exprime ce sentiment de révolte. Et donc, à l'exemple de ce poème célèbre, tout le recueil des sonnets pour Hélène est dominé de la hantise du temps qui, défigure les êtres et défigure les idéaux. Donc on a une forme de temporalité poétique, vous voyez, qui se substitue au temps comme une sorte un petit peu d'équivalent de l'éternité.
Vous avez employé plusieurs fois le mot « canzonnière » pour désigner ces recueils poétiques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ?
Oui, alors pour la critique actuelle, un canzonnière, c'est un recueil de sonnets ou de chansons composés à l'imitation de Pétrarque. Pétrarque, en effet, est un poète italien que l'on considère un petit peu comme le premier humaniste. Il a vécu au XIVe siècle. Vous savez que l'Italie a fait sa renaissance deux siècles avant nous. Et donc, ce poète Pétrarque est considéré à double titre comme un modèle par les humanistes français. D'une part, pourquoi ? Parce qu'il a écrit en langue vulgaire. Vous vous souvenez qu'on en a parlé, hein, c'était un des mots d'ordre de la Pléiade que de développer une poésie en français, en langue vulgaire. Pétrarque a eu le courage, je dirais, d'écrire en italien, hein, alors que le latin était encore en vogue dans son pays. Donc première raison pour laquelle il est un modèle. Deuxième raison, parce qu'il a chanté son amour, qui était un amour platonique, pour Laure de Nove, qui est une jeune femme mariée, enfin mariée à quelqu'un d'autre que Pétrarque, qui a 17 ans quand Pétrarque la voit à la sortie de sa messe de mariage, et il a chanté l'amour pour cette femme dans un registre courtois, empreint de spiritualité. Et donc, Laure inspire à Pétrarque de nombreux vers, essentiellement des sonnets, et donc la plupart sont réunis dans un recueil qui porte le titre de Canzonière. Voilà. Ce canzonnière est paru en 1370 et vraiment, il va laisser une empreinte majeure dans l'histoire littéraire, notamment chez nos poètes de la Pléiade.
Vous avez parlé d'empreinte. Comment on pourrait la définir, cette empreinte, ce pétrarquisme ?
Oui, ce qu'on appelle le pétrarquisme, en effet, c'est à la fois une certaine conception de la passion amoureuse et aussi les formes propres à exprimer cette passion amoureuse. Chez Pétrarque, il faut comprendre que l'amour constitue une passion au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une souffrance, une épreuve. L'image du combat, par exemple, est récurrente chez Pétrarque. Et dans ses textes, cela se traduit par de nombreuses antithèses qui vont désigner cette fragmentation. Hein. Le corps se fragmente, il devient la main, il devient l'œil. Et puis, cela se traduit aussi par des oxymores qui sont autant de tentatives pour préserver cette unité un peu paradoxale de ce moi qui est écartelé entre la douleur d'un désir impuissant à faire sienne cette femme qui n'est pas à lui, hein, qui est mariée à un autre, et en même temps, l'espoir inextinguible d'une satisfaction peut-être qui viendra.
Mais est-ce que cette satisfaction finit quand même par arriver ?
Eh bien non. Et c'est ce qui caractérise vraiment Pétrarque. C'est le caractère platonique de sa relation amoureuse. Elle ne s'élabore, cet amour ne s'élabore que sur l'impossibilité. La poésie ne s'élabore que sur l'impossibilité de l'amour. C'est vraiment cette distance infranchissable entre l'amoureux et l'objet aimé qui est la condition de cette écriture poétique. L'insatisfaction, si je le reformule, est l'aliment de cette poésie. On verra qu'évidemment Ronsard en est loin à cet égard. La conception de l'amour de Pétrarque, donc, va découler directement finalement de la lyrique courtoise. Hein. Là où le pétrarquisme dépasse un petit peu la lyrique courtoise, c'est qu'il va plus loin dans sa dimension spirituelle. L'or, c'est la dame idéale, inaccessible, mais elle est aussi l'objet d'une contemplation vraiment presque mystique. Voilà, c'est donc l'écriture d'un désir insatisfait et le détail de toutes les souffrances que ce désir insatisfait engendre.
Ils expriment, et sans craindre non plus de se répéter, une tension infinie entre le désir de possession et l'aspiration à l'amour pur.
Oui, le pétrarquisme avec ce réservoir d'images, de figures, devient un excellent combustible littéraire. Et c'est aussi l'expression d'une spiritualité. Ce qui est passionnant, c'est d'analyser la manière dont les auteurs de la Pléiade vont s'en saisir, et pour certains, comme Du Bellay, vont le renier. On connaît ce texte très célèbre de Du Bellay, « J'ai oublié l'art de pétrarchiser, je veux d'amour franchement devisé », c'est-à-dire cesser d'utiliser toutes ces figures qui deviennent tellement habituelles, etc. Ronsard, quant à lui, sous l'influence des élégiaques latins, va plutôt refuser cette conception chaste, platonique, de l'amour. Il célèbre le baiser, il réclame avec insistance une relation charnelle. D'ailleurs, il dit dans des vers célèbres de la nouvelle continuation des amours qu'il ne croit pas en la sincérité de Pétrarque. Quand celui-ci évoque sa relation chaste et fidèle à une seule femme, je vous lis les vers peu distanciés et amusés de Ronsard, qui évoque Pétrarque. Il était éveillé d'un trop gentil esprit pour être sot 30 ans, abusant sa jeunesse et sa muse au giron d'une seule maîtresse. Ou bien il jouissait de sa lorette, ou bien il était un grand fat d'aimer sans avoir rien, ce que je ne puis croire. Ainsi n'est-il croyable ? Non, il en jouissait. Puis, la fête admirable. Vous voyez, c'est un vers de Ronsard assez sévère, hein, ou en tout cas assez clair. Il ne croit pas que, dans la réalité, Pétrarque ait pu aimer 30 ans une femme dont il n'a pas joui. Et puis de même, on l'a évoqué dans l'épisode 1 de notre série, Ronsard s'est montré très critique à un moment dans la préface de ses odes, donc quand il était tout jeune au début, en 1550, vous vous souvenez, vis-à-vis de ce qu'il appelait ses petits sonnets pétrarquisés, qui étaient si forts à la mode au début de sa carrière.
Mais du coup, Ronsard, dans quel camp il faut le ranger ? Chez les pétrarquistes ou les anti-pétrarquistes ?
Eh bien les deux, parce que finalement, même quand il les critique, à l'époque des odes, il est déjà dans la plus pure tradition pétrarquiste quand il se présente comme le vassal d'une Cassandre divine, désirée, redoutable. La rime assez facile hein, entre les adjectifs belle et cruelle, qui est promise à une fortune littéraire bien au-delà de la Renaissance, hein, est tout à fait récurrente dans ce recueil des Odes. Ronsard exploite aussi le pouvoir tout à fait évocateur du nom de Cassandre. Dans la mythologie grecque, cette princesse troyenne rejette l'amour d'Apollon, bien que Apollon lui ait octroyé le don de prophétie. Et puis avec Les Amours, qui est un recueil qui est un canzonnière, hein, c'est-à-dire un recueil qui réunit essentiellement des sonnets d'amour à l'intention de la même femme, l'inspiration pétrarquiste est évidente aussi. Ronsard, en fait, emprunte beaucoup de choses à Pétrarque, mais il ne garde pas l'esprit du poète italien, dans la mesure où, on l'a dit, chez lui, la résistance de la dame ne va pas diminuer la fougue de l'amoureux est conduit. Et Ronsard va explorer cette faille béante du désir avec une âpreté, avec une sensualité rarement présente dans une telle intensité dans la poésie amoureuse.
Mais alors là, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Comment Ronsard parvient-il à concilier l'inspiration platonique des amours de Pétrarque et en même temps cette sensualité qui le caractérise? Parce que comme ça, au premier abord, les deux semblent assez incompatibles.
Et oui, le mieux, me semble-t-il, est de prendre un exemple. Il y a un topos dans la littérature, c'est-à-dire un lieu commun, dans la littérature amoureuse, qui remonte à Catulle, qui est celui du baiser amoureux. Jean Segond, qui est un poète latin de la Renaissance, en avait fait vraiment un genre, le genre des basia en latin. Je vous propose d'entendre une élégie de Ronsard qui, précisément, s'inscrit dans cette double tradition littéraire du baiser d'un côté, donc ça n'a rien de platonique, et de l'autre, tout de même, qui s'inscrit dans la veine pétrarquiste, tout en exprimant vraiment le génie propre de Ronsard.
Sans âme, sans esprit, sans pouls et sans haleine, je n'avouais ni ta dent, ni artère, ni veine, qui dissoute ne fut du combat amoureuse. Mes yeux étoués couverts, dévoués le ténébreuse. Mes oreilles lieux tintouées, et ma langue séchée, étouée à mon palais de chaleur attachée. À bras demi-tombés, ton col j'entrelaçouais, nul vent de mes poumons pâmés je ne poussouais. J'avouais devant les yeux ce royaume funeste qui jamais ne jouit de la clarté céleste. Royaume que Pluton pour partage a voulu, et du vieillard Charon le bateau vermoulu. Bref, j'ai troué demi-mort. Quand tes poumons s'enflèrent, et d'une tiède haleine en soupirant soufflèrent, un baiser sur ma bouche, entrecoupé de coups, de ta langue lézarde et de ton riz si douce. Baiser vivifiant, nourricier de mon âme, dont l'alme douce, humide et restaurante flamme éloigna de mes yeux mon trépas et ma nuite, et fit que le bateau du vieillard qui conduit les âmes des amas à la rive amoureuse s'en alla, sans passer la mienne langoureuse. Et si je fus guéri par l'esprit des baisers, il ne faut plus, maîtresse à telle prise apaisée, ma chaleur cyprienne et mêmement à l'heure que le soleil liardant sous la chienne demeure, et que de son rayon chaudement écarté il brûle notre sang qu'elle enflamme l'été. En ce temps, faisons trêve, épargnons notre vie, de peur que, mal armés de la philosophie, nous sentions soudés, ou après à loisir, que toujours la douleur voisine le plaisir.
Vous l'avez entendu, dans cette élégie tirée des amours, Ronsard choisit de commencer à l'instant précis où tous les souhaits de l'amoureux ont été exaucés et où l'organisme s'apaise. Ici, On est loin du pétrarchisme. L'évocation de cette seconde, tellement attendue, tellement espérée, ne fait pas pourtant l'objet d'une description heureuse. Au contraire, c'est un récit funèbre qui nous a été donné à entendre. Dans une sorte de curieux dédoublement de lui-même, le poète décrit non pas la joie de l'amour comblé comme on l'aurait attendu, mais finalement l'expérience, par définition indescriptible, de sa propre mort et de surcroît au passé. On comprend dès le vers 3 avec l'apparition de l'oxymore pétrarchiste du combat amoureux dont on a parlé, typique de Pétrarque, qu'il ne s'agit pas réellement d'une narration post-mortem de son trépas par le poète, mais plutôt d'une hyperbole qui renvoie à ce moment d'engourdissement et de léthargie qui suit immédiatement l'orgasme.
Et cette image de la mort qui va, comme ça, succéder au plaisir, c'est une idée neuve à l'époque ?
Non, on sait depuis longtemps qu'au paroxysme du plaisir amoureux succède ce que l'on appelle la petite mort, qui est le moment où se relâchent tous les muscles et où l'assouvissement brutal du désir va laisser place dans l'âme à un sentiment de vide. D'après toute une tradition littéraire qui va déjà d'Ovide à Mallarmé, en passant par Saint-Augustin, c'est un moment qui, traditionnellement, laisse une impression de profonde tristesse, de mélancolie. Ovide l'avait déjà dit au 1er siècle avant notre ère, « post coitum animal triste ». Après l'amour, la bête est triste.
Et dans ce poème qu'on a entendu, l'amant cadavérique est vite ramené à la vie par le baiser de sa maîtresse. Cette résurrection miraculeuse fait plutôt sourire.
Incontestablement, vous avez bien senti le badinage qui est sous-jacent dans ce poème. La poésie de Ronsard, vous savez, on le dit peut-être, on ne le dit peut-être pas suffisamment, est très largement plaisante et humoristique. C'est là encore un aspect qui la différencie vraiment de celle de Pétrarque. Je vous relis trois petits vers. Bref, j'étais demi-mort, quand tes poumons s'enflèrent et d'une tiède haleine, en soupirant soufflèrent un baiser dans ma bouche. Donc, à la description mortifère des 12 premiers vers, succède une description de retour à la vie, grâce à l'alme, c'est-à-dire la nourricière, l'alme douce, humide et restaurant flamme d'un baiser. Et puis, dans cette élégie, vient une troisième et dernière partie, qui est à la fois un reproche à la dame et puis une leçon, le prix à payer pour cette résurrection après la petite mort est trop élevé. Il faut finalement sortir de cette roue infernale du désir qui brûle d'une chaleur cyprienne. Cypris, c'était la déesse de l'amour. C'est ce que dit Ronsard, il faut sortir de cette roue infernale du désir. Et peut-être finalement, ne vaudrait-il pas mieux s'aimer doucement ? Et là, on a un aspect un peu pseudo-philosophique dans la chute du poème. Finalement, toute notation d'émoi, de vertige a disparu, et cette chute semble relever d'un jeu entre gravité et légèreté. Donc vous voyez que dans son ambivalence, ce poème, qui n'est pas un exemple isolé, montre Ronsard comme le grand champion de l'ambiguïté.
Et donc le sonnet sur la mort de Marie dont on a parlé au début parlait déjà d'amour et de mort, mais là, il s'agissait plutôt d'évoquer un deuil ici. On va beaucoup plus loin, en fait. On est presque dans une réflexion métaphysique.
Oui, ce poème évoque vraiment la proximité de l'amour et de la mort, qui est une proximité aussi de la souffrance et du plaisir. Eros et Thanatos, l'amour et la mort, les dieux de l'amour et de la mort, qu'on croirait si opposés, eh bien finalement se ressemblent très étrangement, presque jusqu'à se confondre. Cette proximité nous rappelle que tout désir, au fond, ne tend qu'à sa propre mort. Désirer, c'est toujours désirer ne plus désirer. Avoir soif, c'est désirer boire et ne plus avoir soif. Donc au fond, tout désir n'est jamais qu'un désir de mort. La mort du désir, confinant finalement à la disparition de l'être en tant qu'être de désir. Le pire réside peut-être dans les visions macabres, cauchemardesques, provoquées par cette agonie que Ronsard nous décrit. Il me semble que malgré l'euphémisation que nous offre le recours aux figures mythologiques de Pluton, de Charon, finalement c'est quand même la peur du néant, du trépas qui est inévitable, qui se dissimule derrière les antonomases fabuleuses que Ronsard nous donne à entendre. Je vous redonne ces vers. « J'avais devant les yeux ce royaume funeste qui jamais ne jouit de la clarté céleste. Royaume que Pluton, pour partage, a voulu, et du vieillard Charon. Le bateau vermoulu. »
Et est-ce qu'on peut parler d'une hallucination ici ?
Oui, complètement. Et elle ne renvoie pas seulement aux symptômes physiques de la petite mort, mais aussi, plus profondément à ce qui pourrait être une inquiétude existentielle. Le poète, que la jouissance a privé de son désir, rentre en lui-même et soudainement prend conscience de la vanité de toute chose. C'est ainsi que, à plus d'un titre, cette petite mort est décidément l'image et la prémonition de la grande. Le sentiment de désarroi corporel, la certitude de la marche au tombeau, succède aux éphémères plaisirs de l'amour. Les enfers mythiques renvoient quant à eux à l'accablement qui succède au combat amoureux, et plus encore, je pense, à l'angoisse terrifiante, métaphysique, éprouvée par Ronsard, que le bonheur de l'amour, finalement, cet amour heureux, a dépouillé de son désir.
Et le pétrarchisme, alors, dans tout ça, où est-ce qu'on le retrouve ?
Eh oui, l'inspiration pétrarchiste se reconnaît dans le thème du combat amoureux entre l'homme et la femme, même si, là encore, le combat spirituel chez Pétrarque devient chez Ronsard le combat physique de la joute amoureuse. Dans le poème de Ronsard, ce combat se joue aussi à l'intérieur même du poète. Il est prisonnier de forces antagonistes qui sont exprimées à coups d'hyperbole. Cette lutte l'épuise. Elle le conduit vraiment à réclamer une trêve. Ça, c'est tout à fait typique de Pétrarque. Tout le poème, finalement, est construit sur une opposition entre la mort et la vie, dans une oscillation qui relève également de la plus pure tradition pétrarchiste. On peut s'amuser à relever le jeu des antithèses. À la mort succède la résurrection. La barque de Charon, dont l'image est reprise par la périphrase « le bateau du vieillard », eh bien cette barque, elle repart à vide. Voilà, selon la logique de la médecine allopathique qui remonte à la Grèce d'Hippocrate ou de Galien, que connaissent très bien les humanistes, le mal est soigné par son contraire, d'où toutes ces oxymores et toutes ces antithèses. La perte du souffle, par exemple, est compensée, donc la mort, est compensée par le souffle qui est issu des poumons de la dame. La sécheresse qui collait la langue sur le palais est guérie par l'humidité du baiser.
Et la femme elle-même semble avoir une nature double, elle est à la fois nourricière et meurtrière.
Oui, on a la même connexion entre la femme vampirique et la femme maternelle que l'on retrouve chez Baudelaire. Ce traitement complexe de la femme, tantôt rassurante, tantôt inquiétante, est un des éléments qui va nous inviter à chercher sous la légèreté le poids d'une méditation quand même d'ordre existentiel. L'image équivoque de la flamme qui ranime et qui tue fait partie aussi des images stéréotypées qu'on retrouve abondamment chez Pétrarque et que Ronsard décline ici à plaisir à travers un champ lexical très présent, vous l'avez noté, de la chaleur et de la sécheresse. Je vous rappelle par exemple ce passage. « Il ne faut plus, maîtresse, à tel prix apaiser ma chaleur cyprienne et mêmement à l'heure que le soleil ardent sous la chienne demeure et que son rayon chaudement écarté, il brûle notre sang et renflamme l'été. »
Que le soleil ardent sous la chienne demeure, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors rassurez-vous, le poète n'est pas en train de traiter sa dame de chienne. La chienne, ici, désigne l'étoile de Sirius, qui est aussi appelée canicula. Canicula en latin, étymologiquement, ça signifie le petit chien ou la petite chienne. Eh bien Sirius, cette étoile, se lève et se couche avec le soleil du 24 juillet au 24 août. Donc c'est la période de la plus forte chaleur, d'où aujourd'hui notre expression habituelle de jour de canicule, ou par ellipse, la canicule, qui désigne du coup non seulement l'étoile de Sirius par métonymie, mais aussi cette époque où l'étoile se lève et se couche avec le soleil, et donc par extension, toute cette période que nous connaissons de grande chaleur.
D'accord, donc on est plutôt dans l'échauffement des sens et de la chaleur de
Exactement, exactement. Vous percevez là, évidemment, combien on est loin de l'esprit de Pétrarque, même si finalement, on en retrouve la lettre. Voilà, vous voyez, même si on n'imagine pas le poète italien sortir post-coitum d'une nuit d'amour avec l'or, on en retrouve quand même les oxymores, le vocabulaire, les champs lexicaux. Alors à la Renaissance, le pétrarchisme se colore aussi des teintes du néoplatonisme, qui fait que la beauté devient finalement le vecteur qui nous mène à une beauté idéale, à un savoir supérieur. C'est un courant développé par exemple par le poète Philippe Desportes, dont on a parlé, qui est le grand rival de Ronsard sur la fin de sa carrière. Mais alors Ronsard, là encore, vous vous en doutez bien, ne se contente pas d'idées trop abstraites. Ce n'est pas un néoplatonicien réellement. Il est trop terrien, il est trop païen, et puis il veut jouir. Dans Les Amours de Cassandre, il disait déjà qu'il aimerait, je cite, être un pitot de village, un fagoteur qui travaille au bocage, car en amour, je le cite encore, Le trop d'esprit cause mon dommage. On a trop finalement, je crois souvent, réduit Ronsard à l'amoureux malheureux, résigné, ou encore, de l'autre côté, à l'épicurien couronné de roses, alors qu'au fond, je crois qu'on l'a bien montré, hein, toute une partie de son œuvre est conçue dans cet entre-deux poétique où l'esprit explore les sens et où les sens se transposent en ce qu'on pourrait appeler une contemplation véritablement cosmique.
Et comment s'opère cette transposition dans ces poèmes ?
Alors, d'après la science de la Renaissance, l'homme est un petit monde, un microcosme, c'est-à-dire un raccourci de l'univers entier, dont on retrouve en petit tous les éléments. Les yeux sont des soleils, les artères sont des fleuves, la chair est la terre, etc. Et réciproquement, le monde est un grand corps. Et vous voyez dans notre poème du baiser, la chaleur du sang appelle l'évocation de la chaleur de l'été. Cette dernière contribue encore à réchauffer finalement les ardeurs érotiques du poète. De même, le combat amoureux, qui met aux prises les deux amants, se montre comme un modèle réduit du conflit entre les quatre éléments qui sont constitutifs de l'univers dans la science ancienne. L'air, le feu, l'eau et la terre, et même le monde souterrain du royaume des morts. L'oxymore pétrarchiste qui se dit de la manière suivante « l'humide flamme » qui caractérise ce baiser vital, hein, est la parfaite expression de la puissante alliance des contraires. Vous savez peut-être que dans la médecine ancienne, l'homme est chaud et sec, et la femme est froide et humide. Et que donc, c'est bien ainsi qu'ils sont décrits ici. L'union amoureuse permet vraiment ce qu'on pourrait appeler en latin la coincidentia oppositorum, hein, la coïncidence des opposés, des contraires, grâce à laquelle finalement le monde lui-même parvient à rester en équilibre.
Donc la vie, la mort, le froid, le chaud, l'humide, le sec, l'univers entier est compris dans un baiser. C'est vertigineux.
Absolument. Il s'agit de rendre finalement, grâce à des moyens littéraires, que sont particulièrement ici du coup les oxymores, les antithèses, hein, les figures du fracas, eh bien il s'agit de rendre par ces moyens littéraires l'idée que la vie elle-même est un équilibre fragile du sec et du froid. Et le projet poétique de Ronsard, en apparence moins compliqué, est en réalité et en définitive, vous le remarquez, plus ambitieux que celui de Pétrarque. Il ne s'agit pas pour Ronsard de ressaisir son moi, qui pour Pétrarque était éclaté, hein, mais d'embrasser, à travers l'expérience amoureuse, l'univers tout entier. Donc cette poésie, c'est une poésie totale. L'expérience érotique va servir de médiation à cette volonté de totalité et de compréhension du monde. La fin du poème sur le baiser est aussi une leçon. La traversée de la mort, traditionnellement, et dans toutes les cultures d'ailleurs, hein, constitue une épreuve initiatique qui va permettre au héros d'accéder à une connaissance supérieure. On pense à Ulysse, Énée, Hercule dans la mythologie grecque, on pense aussi à Dante dans l'Italie du XIIIe siècle, ce sont des exemples bien connus. Eh bien Ronsard dégage de son voyage aux frontières du pays des morts non seulement un savoir selon lequel plaisir et douleur sont indissolublement liés, mais aussi une morale de l'économie, et une morale de l'épargne, à la logique de cette dépense totale qui va présider au désir amoureux, jusqu'à aboutir à l'extinction de l'être, puisqu'il se trouve démuni après le coït de sa puissance vitale, eh bien, à cette logique de la dépense totale se substitue une logique de la thésaurisation, s'aimer doucement.
Mais ça, c'est très paradoxal.
En effet, cet idéal est inaccessible, hein, c'est une illusion, puisque l'amour est par essence du côté de l'excès, de la dépense vitale, de la dépense énergétique. Le rêve de supprimer le désir, sans supprimer l'amour, de connaître un éros doux, sans l'amertume de Thanatos, est impossible. Hein. C'est un vœu tout à fait inenvisageable, impossible, c'est une illusion. Et le texte s'achève ainsi sur, finalement, une injonction paradoxale, qui est de user du désir avec parcimonie. Voilà une méditation, à mon avis, très authentique sur l'amour. Hein. Et d'ailleurs, elle n'exclut pas du tout l'autodérision. Cette ambiguïté de ton qui illustre notre élégie également et qui est vraiment un des grands charmes, je crois, de la poésie de Ronsard. C'est pourquoi je vous propose, pour terminer ce podcast, d'entendre le sonnet 6 du 5e livre des Odes, qui me paraît emblématique de cette autodérision dont Ronsard se montre souvent capable.
Quand je veux en amour prendre mes passe-temps, mamie, en se moquant, laid et vieillard me nomme. Quoi ? Dit-elle. Rêveur ! Tu as plus de 100 ans et tu veux contrefaire encore le jeune homme. Tu ne fais que hannir. Tu n'as plus de vigueur. Ta couleur est d'un mort qu'on dévale en la fosse. Vrai est, quand tu me vois, tu prends un peu de cœur, car un gentil cheval ne devient jamais rosse. Et si tu ne m'en crois, prends ce miroir et vois ta barbe. En tous endroits de neige parsemée, ton œil qui fait la cire épaisse comme un doigt, et ta face qui semble une idole enfumée.
Vous venez d'écouter le 4e épisode de la série Pierre de Ronsard, une révolution poétique. Un podcast de France Mémoire avec Luce Albert, maîtresse de conférences en littérature de la Renaissance. Lecture des poèmes par
Antoine Marie, Philippe Valpin, Louaine Guillot
et
Clara Rio.
Musique de l'ensemble Douce Mémoire. Conception, Caroline Garde-Lebreton, Luce Albert, Marie Catelin. Réalisation, Erwan Guillot.